Nous sommes en train de vivre une véritable révolution culturelle, tant nos rapports avec les images sont bouleversés. Les images de demain, c'est le thème de ce numéro spécial de Culture Pub.
À l'occasion du festival Imagina qui s'ouvre dans quelques jours à Monte-Carlo, nous vous proposons de faire le point sur les images de synthèse, les effets spéciaux, les mondes virtuels et sur la façon dont nous allons consommer ces merveilles d'images demain.
Premier constat, en France, si on n'a toujours pas de pétrole, on a quelques idées, mais on a surtout de très belles images artificielles. À tel point que les cinéastes français commencent enfin à comprendre l'intérêt pour eux du numérique.
Une révolution, qu'on vous a dit.
Des images numériques, vous en voyez tous les jours sans le savoir. À l'origine, elles sont images sur pellicule en 35 mm ou images vidéo sur bande magnétique. Ou même, elles ne sont qu'une idée dans la tête d'un réalisateur. Quand on fait rentrer tous ces signaux hétéroclites dans un ordinateur, on obtient un langage binaire unique. Il devient donc possible de manipuler et de mélanger ces images en vue d'effets spéciaux ou de trucages invisibles. Sur ce terrain, la France, patrie de Méliès et des Frères Lumière, est hautement performante. Rappel du B.A.B.A. Pour créer une image de synthèse en 3D, il faut d'abord modéliser un objet, un décor ou un personnage. Une fois la forme créée et représentée par un squelette en fil de fer, l'ordinateur peut calculer tous les angles de prise de vue, tous les mouvements autour de cette forme. Il ne reste plus qu'à animer la forme, à lui donner vie par des effets de texture, de matière et de lumière. Mais là, plus besoin d'explications, on ouvre grand les yeux.
Discover this terrible psychoanalytic secret.
Allez vous faire voir.
Unbearably delicious Teddy Graham's cookies. Once they're out of the box, they're a real handful.
Ce Ride, film destiné au cinéma dynamique, a été découvert en décembre par les spectateurs des parcs d'attractions américains. Bonne nouvelle, il est français.
Il y a trois grands pays qui font de l'image de synthèse dans le monde. Ce sont les États-Unis, le Japon et la France. Et justement, la France est pratiquement leader sur cette technique avec ces deux grands pays. On arrive aujourd'hui à avoir une qualité d'image, une qualité de lumière, une qualité d'animation qui est absolument parmi les meilleures au monde.
Stand by for turbo propulsion to hyperspeed.
Il reste juste enfin, en fait, à convaincre les publicitaires français et les producteurs français qu'ils ont en France des gens qui savent faire des effets spéciaux mélangeant toujours prise de vue réelle et 3D, du trucage numérique, et qu'on peut le faire pour des coûts très raisonnables à Paris.
Le numérique, c'est avant tout un concept, c'est-à-dire que c'est le concept de transférer en code numérique, binaire, des informations de tout type, donc en principe d'une image, d'un texte, d'un son, de n'importe quoi, et d'après, pouvoir le traiter de quelque manière que ce soit, de le couper, de le coller, d'inverser les trucs, de faire toutes les manipulations possibles et imaginables grâce à l'ordinateur.
Une image numérique, ça peut être aussi l'assemblage de plusieurs prises de vue réelles.
Mais quand il est léger, croustillant, comme...
Les vedettes n'ont donc plus besoin d'attendre l'arrivée hypothétique d'un vol de mouette. Ce genre de manipulation est maintenant tellement pratiqué qu'on ne parle plus d'effets spéciaux mais d'effets normaux. Quand les techniques traditionnelles de trucage s'avèrent insuffisantes, le numérique vient à la rescousse.
Les gens d'Acmé ont filmé en vrai le couteau monté sur un système de rotation. C'est-à-dire que le couteau, lui, est sur un axe qui tourne et la caméra... Elle recule, puisque le couteau ne se déplace pas. C'est la caméra qui crée le déplacement du couteau. Donc une fois le couteau incrusté grâce au cache, Ça me donne ça.
Autre exemple de trucage numérique sur prise de vue réelle, l'anamorphose. C'est l'ordinateur qui calcule tous les points de transformation d'un visage à un autre, d'un objet à un autre, pour obtenir une continuité parfaite, un effet impossible à obtenir avec les trucages traditionnels.
De plus en plus de réalisateurs cinéma, donc des gens du cinéma traditionnel, s'intéressent vraiment carrément de plus en plus au digital par rapport à leur conception du cinéma, mais petit à petit appliquent le numérique au service de leur visualisation des choses, des trucages.
Avec le numérique, j'apprends le cinéma, ou en tout cas le film, comme ça, plus d'une manière de musicien, quoi. Je trouve que c'est un peu... j'engrange des éléments, au lieu que ce soit un riff de guitare ou un riff de synthé. C'est des images, des mouvements, c'est des gestes, des expressions. Et à partir de ça, je les échantillonne, je les rentre dans les machines et je peux les manipuler vraiment comme je veux, quoi.
Donc on a pris le parti de faire cette bestiole en synthèse, avec son cache, bien sûr, donc même principe, hein, on incruste toujours par rapport à un cache. Donc là c'est l'ordinateur, lui, qui gère ce cache. Et une fois réincrusté sur l'image, ça nous donne ça.
Un des exemples les plus impressionnants de mélange d'images de synthèse et de prise de vue réelle, c'est bien sûr les effets spéciaux de Terminator 2, réalisés par Industrial Light and Magic. Le visage et la silhouette de Robert Patrick sont scannerisés afin que l'ordinateur puisse les modéliser et les retravailler sur le logiciel Morph. Pour obtenir cet effet d'éclatement, il n'est bien sûr pas question d'éclater la tête du comédien. Comme l'ordinateur a besoin de cette forme finale pour calculer toute la transformation, on a donc recours à un moulage, empreinte exacte du visage du comédien qu'on peut maltraiter sans problème. Cette technique numérique est bien sûr associée à toute la gamme de trucage utilisée au cinéma depuis toujours. Mais le mélange 3D prise de vue réelle, c'est pas forcément Terminator et son budget de 100 millions de dollars. Elle peut s'adapter à tous les coups, à tous les goûts.
Olivia's in love.
You're not serious.
No, this camembert.
Really?
Yes, Olivia and champignon camembert.
How did he manage that?
They say his taste is quite seductive.
Champignon camembert, simply seductive.
Bell Atlantic answer call from Bell of Pennsylvania. The answering machine that works right through your phone. Bell Atlantic answer call. Call now to order.
Les progrès des trucages numériques sont maintenant acquis. L'outil est accessible à tous, alors on peut parier que les années à venir nous réservent un cinéma et une pub à nouveau jubilatoire.
Il n'y a pas que les images qui vont changer, il y a aussi les supports de ces images, autrement dit, les écrans.
Ces écrans, avant, ils étaient gros, gras et dodus. Demain, ils seront filiformes, ils seront partout chez vous et surtout, ils seront multifonctions.
Et de fait, vous ne les regarderez pas de la même façon.
Envahissant les écrans. Aujourd'hui, chacun d'entre eux a une forme et une fonction bien précises. Résultat, les tubes cathodiques s'accumulent. On réserve ses places de cinéma sur le Minitel, on consomme passivement Blachas et Mania à la télévision et on travaille de plus en plus sur son ordinateur. Demain, tout se fera sur le même écran. Il sera plat, mais les modèles varieront de la plus grande à la plus petite taille. Comme d'habitude, le marketing accommodera à sa sauce les dernières inventions de la technologie.
Il est là, le téléviseur Radiola. Il est là, chez vous, bien sûr équipé deuxième chaîne.
D'abord gros et inélégant, les téléviseurs se sont affinés au rythme des progrès de l'électronique. La pub a suivi en codant ses messages d'argutie technico-commerciale.
Nouveau tube payé à l'autoconvergent. Thomson vous offre ce que la technique a de meilleur aujourd'hui.
Bonsoir ! Le nouveau téléviseur Radiola est un événement avec son écran plat et ses coins carrés. Il est furieusement...
Aujourd'hui, les cristaux liquides rendent l'écran aussi plat qu'une calculette. Encore limitée aux petites tailles, genre Game Boy, cette technologie va bientôt s'imposer aux dépens du tube cathodique. Mais alors qu'au fil des ans, le look du poste devient de plus en plus futuriste, la qualité de son image reste d'un archaïsme désespérant. Pas besoin de loupe pour déceler les 625 lignes horizontales de cette rame, grossières au regard du cinéma qui offre une précision 5 fois meilleure. Autre problème, alors que les détaillants s'escriment à nous vendre des télés équipées d'un système d'écoute perfectionné et stéréophonique, le son que l'on reçoit reste plus proche de la téléphonie que du compact disque.
Cockpit.
Soucieux de répondre à ce retard technologique, mais plus encore conscient que le petit écran est entré dans presque tous les foyers de la planète, les gourous du marché brun ont décidé d'inventer un produit suffisamment révolutionnaire pour renouveler le parc mondial des téléviseurs, une bagatelle d'un demi-milliard de postes. Voilà pourquoi Japonais, Européens, mais aussi Américains se sont lancés dans la bataille de la haute définition. Stratégie générale, obtenir des couleurs plus stables, doubler le nombre de lignes pour une plus grande finesse de l'image et offrir un son stéréo de qualité laser. Quelques études ont cependant prouvé que ces arguments étaient à eux seuls un peu légers pour persuader le consommateur de remiser son vieux poste au grenier. Le marketing en a alors inventé un troisième qui, lui, n'a rien à voir avec la haute définition, l'écran format cinémascope. Ce futur standard, appelé 16/9, semblerait même être l'argument décisif dans l'acte d'achat, à tel point que certains se demandent s'il ne faut pas remettre à plus tard l'épineux problème de la haute def et de ses normes.
Philips, c'est déjà demain.
Pendant ce temps, le cinéma n'en finit pas de vivre sa crise. La télévision et le magnétoscope lui ont progressivement porté ombrage et maintenant, le son des vidéodisques rivalise avec la qualité des meilleures pellicules Dolby ou THX.
Appuyez sur la télécommande et recréez le monde magique du cinéma.
Avec la télévision haute définition, c'est bientôt l'hégémonie de son image qui va se trouver menacée. Pour trouver la parade, le cinéma renoue avec le grand spectacle et offre ce que les murs de la maison ne permettront jamais, le gigantisme et les effets spectaculaires. Projection en relief, écran à 360 degrés, tout est bon pour retrouver l'émotion du public, autrefois lorsque le train entrait en gare de la Ciotat. Dernière nouveauté, le Cinax. Cette salle, montée sur vérin hydraulique, secoue les spectateurs. Cela s'appelle le cinéma dynamique, et ça, la télévision aura encore longtemps du mal à se l'offrir. Autre temps, autres écrans. L'informatique a peu à peu envahi les terrains vierges. Rues, chambres à coucher, bureaux ou cours de récré. Résultat, de nouveaux tubes cathodiques sont venus côtoyer le téléviseur. Ces écrans changent. L'ordinateur individuel, qui manipulait déjà textes et dessins, peut désormais couper et coller des sons, des photos et de l'image animée. Bref, remplacer dans l'entreprise la vulgaire note de service par un petit montage vidéo diffusable en un clic de souris sur les postes du réseau interne. Ou pour une société gérant comme une caisse de retraite des millions de dossiers clients de se débarrasser du papier.
Depuis un an, nous stockons tous les courriers que nous recevons de nos clients. Le poste multimédia permet l'interrogation de retrouver l'image des lettres que nous avons reçues, et ce, en temps réel. Les procédures que nous utilisons permettront ultérieurement de stocker également la voix, c'est-à-dire que l'on pourra entendre la communication téléphonique que l'on a eue avec un assuré, par exemple.
Image Plus, c'est vraiment bien.
Autre tendance, le visiophone a fait de gros progrès depuis ses débuts à Biarritz. Désormais numérique, il fonctionne sur une simple ligne téléphonique à haut débit.
Comme je suis contente de te voir.
Tu viens chez nous dimanche ?
Bientôt, nous allons vivre à la maison comme dans l'entreprise, l'intégration totale des différents écrans grâce à l'ordinateur qui va gérer de manière centralisée nos besoins. D'ici une quinzaine d'années, nous pourrons au même endroit regarder un film téléchargé dans une bande de programmes, se connecter sur une télémessagerie rose ou même suivre un cours d'informatique.
De plus en plus, effectivement, à travers ces écrans, on aura la capacité à se former sur des problèmes spécifiques, soit pour les enfants de l'aide et du soutien, soit pour les adultes de la formation professionnelle.
Tout ou presque, voilà ce que l'on pourra voir et faire sur ces nouveaux écrans qui vont aussi changer de galbe.
Dans 15, 20, 25 ans, les écrans, peut-être même avant, les écrans seront de plus en plus plats, ils seront à cristaux liquides et on pourra les mettre n'importe où.
Plus fou encore, les écrans pourraient bien disparaître et les images être projetées directement sur la rétine au moyen d'un microscanner à laser. Une technique synonyme de haute définition, mais aussi de relief.
Et cette technique sera vraiment révolutionnaire parce qu'elle permettra d'obtenir non seulement une projection directe sans écran, mais également une projection en relief. Parce que chacun des deux lasers, le gauche et le droit, pourra projeter une image gauche et droite de façon à obtenir un effet stéréoscopique complet.
Bien sûr, ces mutations ne seront pas sans incidence sur nos cerveaux cartésiens. Deux écueils sont à craindre. D'un côté, la technopathie menace d'exclusion sociale celles et ceux qui refuseront ces nouvelles pratiques. De l'autre, l'abus risque fort de mener les accros à un état d'asocialité prononcé. En clair, et surtout pour le rester, n'appartenez ni au front du refus, ni à celui de l'adhésion totale, soyez ouverts, mais circonspects.
Vous avez vu que les écrans de demain pourront provoquer des troubles mentaux conséquents. Ce n'est rien par rapport aux effets que risquent de générer les images virtuelles.
Car ces images-là vont vous entraîner dans l'univers de l'hallucination et de la schizophrénie aiguë par éclatement de la personnalité. D'ailleurs, les anciens hippies de la côte ouest se sont tous reconvertis à cette défonce à base d'images virtuelles.
La technique des images virtuelles progresse très 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 vite. Les applications en sont multiples, en voici un aperçu.
Les univers virtuels, également appelés espaces cybernétiques, explosent. Cuisinistes, architectes, militaires, chirurgiens, même plongeons sous le casque qui, tel le miroir de Lewis Carroll, conduit là où tout devient possible. Planer dans les airs, se disséquer dans le temps et dans l'espace, et même vivre à plusieurs dans un seul corps. De quoi perdre la boule, non ? Pour entrer dans la réalité virtuelle, il faut 1. Caler sur sa tête un casque muni d'écouteurs et de petits écrans. 2. Le brancher sur un ordinateur où est mémorisé un univers graphique en 3 dimensions. 3. Enfiler un gant ou une combinaison interactive. Grâce aux capteurs et fibres optiques qui équipent ce matériel, les images suivent les mouvements de la tête. Le gant permet de se déplacer ou de saisir des objets qui n'existent pas en vrai. Grisant. Mieux, on peut se connecter à plusieurs sur un même univers. Cet Américain n'en revient pas. Il voit en face de lui, sous une forme étrange, son vieux copain John qui habite à des kilomètres de là. La rencontre est télévirtuelle. Bien sûr, la définition graphique de ces mondes est encore un peu sommaire. Question de puissance de l'ordinateur qui doit, en temps réel, c'est-à-dire 25 fois par seconde, recalculer l'angle de vue du paysage. Mais patience!
Avant la fin du siècle, nous aurons des images de synthèse virtuelles de qualité équivalente à celles que les images de synthèse classiques obtiennent d'ores et déjà.
Si les recherches sur la réalité virtuelle étaient au départ militaires et donc plutôt discrètes, ces applications s'étendent aujourd'hui aux secteurs les plus divers. La force de vente japonaise, par exemple, a déjà adopté le procédé. Désormais, l'installation de sa future cuisine se teste virtuellement en apnée ménagère.
Voyons, là, le placard. Oh, très kitsch, le robinet. Tiens, je vais prendre la tasse à saké. Oh.
Architectes et urbanistes vont également devoir s'y mettre, car leurs clients refuseront bientôt plans et maquettes et exigeront une visite virtuelle de la maison ou du centre-ville rénové. Les chirurgiens, grâce à la réalité virtuelle, répètent déjà leurs coups de scalpel sur le clone informatique de leur future victime.
Allez la jambe, allez on lève, plus haut.
Le dessin animé va vivre une révolution. Avec une combinaison à fibre optique, un téléacteur enregistre en direct les mouvements de ce Mickey aux jambes arquées, ce qui évite calcul ou dessin image par image.
On va enfiler virtuellement en fait la peau d'un acteur en synthèse et on va pouvoir le faire bouger, le faire évoluer comme un acteur réel. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on va pouvoir répéter les scènes comme on le fait actuellement avec des acteurs.
Autre application, la téléprésence. se trouve, figurez-vous, quelques endroits dans le monde réel, comme l'espace ou le cœur d'une centrale nucléaire, où il vaut mieux être virtuellement que physiquement présent. Le masque et le gant servent alors à télécommander quelques androïdes dévoués. Le loisir a déjà succombé au charme du virtuel. Les nouveaux jeux vidéo déferlent en Angleterre. Ici, les apôtres du virtualisme sauvage, version Top Gun, vont du kid au cadre de la city.
That was absolutely brilliant. I'm not an arcade fan, but that was truly amazing.
Que les émules hexagonaux se rassurent, leur tour arrive.
Je crois que vraiment cette année, il y aura un très grand boom de ces jeux. Et on va vraisemblablement aussi en voir sur les Champs-Élysées et on va pouvoir vraiment s'amuser.
Ciao Culture Pub, je plonge.
Dans un premier temps, on va faire sa guéguerre des étoiles tout seul dans son petit monde virtuel. Mais bientôt, les conquêtes intergalactiques seront partagées à plusieurs dans d'énormes game centers.
Des firmes de jeux japonaises équipent des salles sphériques et avec des écrans interactifs qui composent une image absolument continue sur 360 degrés, mais chaque élément de l'image est directement interactif.
Bon, la guerre c'est bien beau, mais l'amour, c'est pour quand ?
D'ores et déjà, il existe des gants de données spéciaux qui permettent d'avoir le sentiment tactile. Il y a aussi des combinaisons équipées de petits coussins d'air qui permettent d'avoir le sentiment du toucher. Donc on peut créer des espèces d'ersatz d'amour, mais c'est pas l'amour bien sûr, c'est une espèce de sentiment comme ça purement illusoire, mais qui peut avoir aussi des conséquences réelles sur notre façon de concevoir l'amour en tout cas.
Justement, ces univers qui permettent de se dédoubler, d'être à la fois ici et ailleurs, ou de partager son corps à plusieurs, est-ce que ça ne préparerait pas des générations de débiles ?
Une des conséquences psychiques, ce serait une espèce d'éclatement de la personnalité. On pourrait parler d'une schizophrénisation. C'est un risque d'ailleurs de maladie mentale.
Du reste, les pires allumés de la côte ouest des États-Unis testent déjà depuis longtemps tout ce que le virtuel peut offrir en matière de déjante. À en croire Timothy Leary, ancien porte-parole de la Freak Generation, la technologie, c'est nettement mieux que les acides pour avoir des alus. Dans ce lieu étrange, le cyberfond, tout jusqu'au repas est virtuel.
Mademoiselle, your entree, frosted plate.
Délire toujours plus. On vient de découvrir, grâce à une caméra qui scrute les mouvements de la pupille, comment donner des ordres en fixant son regard sur un point de l'écran. Pour l'instant, cela permet à un handicapé de taper son courrier ou de jouer aux cartes. Mais déjà, le marketing lorgne sur cette technique qui pourrait, par exemple, analyser très précisément ce que vous regardez sur une publicité. La réalité virtuelle ne manquera pas d'exploiter également ce nouveau filon et demain, on pourra sous son casque tuer ses ennemis du regard ou séduire d'un clin d'œil une Lolita de synthèse. De synthèse ? Dommage.
La semaine prochaine, retour aux dures réalités de l'existence et à l'occasion de l'anniversaire de la guerre du Golfe, une enquête sur les rapports aux ambiguës de la guerre et de la pub.
Au programme également la semaine prochaine, et ça n'a aucun rapport avec ce qui vient d'être dit, la passionnante saga des bonbons. Salut.